Pour ma part, et ceux qui me connaissent le savent, l'un des jours les plus joyeux, c'est le jour de l'Akba Omer. C'est un jour durant lequel je me réjouis toujours énormément. Chaque année, j'ai l'habitude d'aller à Méron. Cette année, compte tenu du corona, c'est interdit d'aller à Méron et les autorités ont complètement interdit d'y aller. Mais malgré tout, je suis très très joyeux ce jour-là de l'Akba Omer. Il y a un des grands Admorim qui s'exprimait et qui disait, et moi vous savez que j'ai pas tellement l'habitude de dire ça, donc je ne le dis pas en tant que sachez que. Il y a un des grands Admorim qui disait que, il dit, je suis sûr moi que le Mashiach il viendra le jour de l'Akba Omer. Il disait, c'est un jour tellement pur, un jour tellement grand, un jour tellement fort, que c'est sûr, c'est certain que le Mashiach il viendra ce jour-là. En tout état de cause, on voit que c'est un jour qui est particulier. Qu'est-ce qui s'est passé de tellement particulier ce jour-ci? Pourquoi ce jour, on a l'habitude de se réjouir tellement? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Il y a plusieurs explications qui ont été données. L'une des explications qui a été donnée, c'est de dire que les élèves de Rabbi Akiva, qui sont décédés durant toute cette période-là, c'était quelque chose de terrible, vous imaginez, de tellement, tellement, tellement grands tzadikim. Ils sont tous décédés. Et une fois qu'ils ont tous fini de décéder, c'était quand? C'était le jour de l'Akba Omer. Donc le jour de l'Akba Omer où ils ont cessé de mourir, et bien là enfin, on peut commencer à se réjouir et on peut se réjouir pour marquer le coup. Sur ça, il y en a qui posent la question et qui disent, mais c'est bizarre, les élèves de Rabbi Akiva sont tous morts. Ça veut dire que le décret, il avait été édicté à l'encontre de tous les élèves de Rabbi Akiva. Et ils sont tous morts. Maintenant, ils sont tous morts quand ça? Le jour de l'Akba Omer. C'est une raison de se réjouir. Ils sont morts ce jour-ci. Ils ont arrêté de mourir ensuite parce qu'ils étaient déjà tous morts. Il n'y avait plus personne à tuer en quelque sorte. Donc qu'est-ce qu'il y a de tellement joyeux ce jour-là? Pourquoi on dit que ce jour-là est quelque chose de tellement magnifique? Il y a un des grands, grands Mefarshim qui s'appelle le Rama de Pano. Lui, il dit quelque chose de très, très, très joli. Il dit que Rabbi Akiva, il devait mourir. Akadosh Baruch Hu avait décidé que ce n'est pas les élèves qui doivent mourir, mais c'est Rabbi Akiva. Et qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Il savait que c'était une âme tellement importante, Rabbi Akiva, et qu'il fallait absolument le maintenir en vie, qu'il a préféré tuer à la place de Rabbi Akiva les 24 000 élèves. Ça veut dire que les 24 000 élèves, eh ben, ils avaient le niveau de Rabbi Akiva. Imaginez un petit peu la grandeur de Rabbi Akiva. Pour que les 24 000 élèves, ils doivent mourir pour permettre à Rabbi Akiva de rester en vie, c'était en quelque sorte un sacrifice. Eh bien, regardez un petit peu la grandeur. Parfois, il y a des grands rabbanim qui meurent ou qui ont des soucis. Et ils disent, c'était une kapara pour le klal Israël. Genre, un tzaddik pour tout le klal Israël. Eh bien, ça a été un petit peu l'inverse. Il y a eu tout le klal Israël, tous les élèves de Rabbi Akiva qui ont subi pour que Rabbi Akiva puisse lui aussi rester en vie. Comme ça, le Rama de Pano dit, nous, on n'aurait jamais pu dire quelque chose de ce genre-là, mais c'est ce que le Rav nous dit. En tout état de cause, pourquoi ce jour-là alors on se réjouit? On se réjouit d'abord parce que Rabbi Akiva est resté en vie, et on se réjouit aussi du fait que ce sacrifice a été accepté aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Il y en a qui expliquent d'une façon un petit peu différente, mais on va voir que les idées se rejoignent un petit peu. Une fois que les 24 000 élèves sont morts, Rabbi Akiva il savait plus quoi faire. Il fallait bien continuer à propager la Torah. Il n'y avait plus personne. Or, il a pris un petit noyau d'élèves, parmi lesquels Rabbi Shimon Bar Yochai, il a commencé à leur enseigner la Torah. Il leur a commencé à leur donner tous les secrets de la Torah. Il a commencé à leur enseigner plein plein de choses. Et ça, c'était quel jour? C'était le jour de l'Akba Omer où il a commencé à leur enseigner la Torah. Dis Rachamim que ce jour-là où Rabbi Akiva, il a continué ce qu'il avait déjà commencé, ce jour-là où Rabbi Akiva s'est pas désespéré, ce jour-là où Rabbi Akiva a fait en sorte de pouvoir permettre à la Torah de poursuivre, eh bien, ce jour-là, c'était un jour particulier, un jour énorme, un jour gigantesque, et donc un jour de joie. Parce que si jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a le droit à la Torah, c'est grâce à ce jour-là où Rabbi Akiva, il ne s'est pas désespéré, et où il a enseigné la Torah. Et Chachamim nous font remarquer qu'a priori, à la place de Rabbi Akiva, nous, on se serait certainement désespéré. J'avais des élèves, je me suis tué pour eux, je leur ai enseigné toute la Torah, et maintenant ils meurent tous. Visiblement, c'est qu'il y a un problème. Visiblement, c'est que je ne suis pas apte à être un rave. Visiblement, c'est que à quoi ça sert? Je vais renseigner la Torah pour qu'à nouveau mes élèves meurent. À la place de Rabbi Akiva, on aurait pu désespérer. Ben, la grandeur de Rabbi Akiva et la joie qui est la nôtre en cette période-là, en ce jour-là, c'est de dire bravo Rabbi Akiva de ne pas avoir désespéré. Il y a écrit dans le concept de Hashavat Aveda, il y a écrit Aveda Shelo Midat. Quelquefois, excusez-moi, écrit Yehush Shelo Midat. Yehush Shelo Midat, ça veut dire quelquefois, je me désespère de quelque chose, Mais chez l'omidat, explication de la halakha, ça veut dire qu'il y a quelque chose, je ne sais pas encore que je l'ai perdu. Quand je saurai que je l'ai perdu, je ferai yéhouch, j'attacherai mon esprit de cet objet-là. Mais pour l'instant, je ne suis pas encore au courant. Le Rav de Kotz qui dit, il faut lire différemment, il faut dire yéhouch chez l'omidat. Quelqu'un qui fait yéhouch, quelqu'un qui se désespère, c'est quelqu'un qui manque de lucidité, qui manque d'esprit. Parce que quand tu as de l'esprit, tu comprends bien qu'on ne fait pas yéhouch. Même quand les 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont morts, ce n'est pas une raison pour faire yéhouch. On ne fait pas yéhouch. Et Rabbi Akiva nous a donné cette leçon-là de ne surtout jamais, jamais faire yéhouch. En tout état de cause, on voit de Rabbi Shimon Bar Yochai, cet élève-là de Rabbi Akiva, qui finalement faisait partie que des cinq, que c'est lui qui a été particulièrement grand entre tous. Dans le fameux Bar Yochai qu'on chante, Bar Yochai, qu'est-ce qu'on dit? On dit Naase Adam Ne'emar Ba'avurecha. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, au moment de la création du monde, a dit « Nous allons faire un homme, nous allons créer un homme », c'est qu'il est l'exemple même de l'homme qui a réussi dans sa vie, qui a fait de grandes choses. C'est qui? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a réussi dans sa vie, c'est lui l'exemple même de l'homme. En général, on demande « C'est quoi un homme qui a réussi dans sa vie ?» On répond, on dit « Un homme qui a réussi dans sa vie, c'est un homme qui arrive à avoir suffisamment d'argent » pour que malgré les dépenses de sa femme, il puisse malgré tout tenir. Et c'est quoi une femme qui a réussi dans la vie? C'est une femme qui a réussi à trouver un homme de ce genre-là. Mais en fait, ce n'est pas ça. Un homme qui a réussi, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. On dit à propos de Rabbi Shimon Bar Yochai, « Torato magen lanu ». Sa Torah, c'est elle qui nous protège. C'est la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai qui nous protège. Et on va voir plus que ça. Il écrit dans la Gemara de Shabbat, Daf Memhe Amud Bet, des choses fantastiques qu'il faut absolument qu'on essaye de comprendre. Je vous lis dans les mots. Amar Rabbi Yirmiya Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc ce Ravi dit, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, Yachol ani liftor et kol haolam kulo minadin, miyom shenivreti ad ata. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était certainement pas quelqu'un de prétentieux, il dit, moi, par mon mérite, je peux dispenser le monde tout entier. Depuis le jour où j'ai été créé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc regardez un petit peu le mérite que j'ai. Je vous répète, il n'était pas prétentieux, il était modeste. Vilma Eliezer Beni Imi. Et si jamais on tient compte aussi des mérites de Eliezer, mon fils. Miyom Shenivra Aolam Ve'adarshav. Depuis le jour, non pas où j'ai été créé, mais depuis le jour où le monde a été créé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vilma Yutam Ben Uziya Uimanu. Miyom Shenivra Aolam Atsofo. Et si en plus il y a le mérite de Yutam Ben Uziyahu qui se met avec nous, on pourrait réussir à sauver le monde depuis le jour où il a été créé jusqu'à la fin. Y compris notre génération, y compris le corona, y compris les grandes difficultés qu'on a dans notre monde. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'exprime et il dit qu'il a a priori un mérite fou. Il faut comprendre comment ça marche. C'est quoi ce mérite fou? Comment Rabbi Shimon Bar Yochai peut à lui-même réussir à dispenser le monde tout entier? On va essayer d'expliquer. Après, il continue et il dit comme ça. Ve'amar Hiskia Marabi Remia Mishum Rashbi. À nouveau, Rabbi Shimon Bar Yochai. Raiti bne Aliya vehen muatin. Écoutez un petit peu cette Gemara. Combien cette Gemara est interpellante. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, j'ai déjà vu des gens qui sont des bne Aliya. Bne Aliya, c'est des gens qui progressent dans leur vie. Des gens qui font bien, des gens qui ont de hautes aspirations, des gens qui regardent toujours vers le haut. J'en ai vu, ça existe. Vehem Moatin. Mais ils sont peu nombreux. Il y a peu de gens qui ont comme ça beaucoup, beaucoup d'aspirations. Vous avez remarqué, c'est quoi la cravate? La cravate, c'est un ustensile qui permet de nous indiquer vers où le cerveau y va. Toujours vers le bas. C'est pour ça que les vieux, parfois, ils mettent des cravates sans flèche, comme ça. Il y a des gens qui sont des bnei aliyah qui montent vers le haut, il y en a peu. Imelefem, Ali. Ubanaimem. Ubenimem. Il dit, si jamais il y en a 1000, ben, moi et mon fils, on fait partie de ces 1000. Imeaem, s'il y en a 100, Ani Ubanaimem. Moi et mon fils, on fait partie d'eux. Imshnaimem, Ani Ubenien. Et s'il n'y en a que deux, des bnei aliyah sur le monde tout entier, s'il n'y en a que deux, et ben, ces deux-là, c'est moi-même et mon fils. Donc on voit à nouveau que Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il parle ici de gens qui sont des gens tellement grands, des gens avec aspiration, des gens qui ont une vie importante, des gens qui ont du poids, ben ces gens-là, c'est qui? C'est lui et c'est son fils. Alors il faut aussi comprendre ici quelque chose. Pourquoi il ne dit pas « et s'il n'y en a qu'un ?» Et là, il aurait départagé. « S'il n'y en a qu'un, c'est moi. » Ou « s'il n'y en a qu'un, c'est mon fils. » Pourquoi il s'arrête là? Il dit « s'il y en a 1000, c'est un tel et un tel. S'il y en a 100, un tel et un tel. S'il y en a 2, c'est mon fils et moi. » Il aurait dû dire « et s'il n'y en a qu'un, c'est moi ou c'est mon fils. » Pourquoi il n'a pas envisagé cette option-là? En Béhémeth, il faut qu'on essaye, Bezrat Hashem, de comprendre un premier point très intéressant. Le Rav Ben Ishraï, dans son œuvre Ben Yehoyada, dans lequel il essaye d'interpréter un petit peu les enseignements de la Gemara, il se penche sur la question. C'est quoi cette histoire-là? Que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a la possibilité lui-même d'exonérer le monde tout entier. Mais d'où il a ce pouvoir-là? Comment c'est possible? Et il dit quelque chose de très joli, c'est un petit peu du pile-poule. Mais regardez comment c'est joli. Il y a écrit dans Chazal qu'un jour, Akadosh Baruch Hu va s'adresser à l'homme et il va lui dire, regarde, pourquoi dans ta vie tu as fauté? Tu aurais dû te comporter de façon droite. Pourquoi tu as fauté? Or l'homme, il va dire, bah, écoute, je vais te dire la vérité. L'âme, elle va prendre la parole, c'est pas de ma faute, c'est de la faute du corps. La preuve, depuis le jour où j'ai été séparé du corps, depuis le jour où cet homme-là est mort, eh ben, je ne fais plus de faute. Je me trouve en haut avec les anges et puis je ne fais plus aucune faute. C'est pas de ma faute à moi, c'est à cause du corps. Bon, d'accord. Alors Hachem, il va s'adresser au corps. Il va dire au corps, pourquoi tu as fauté? Bien, c'est pas de ma faute, c'est de la faute de l'âme. Pourquoi c'est de la faute de l'âme? La preuve, depuis que je suis mort, je suis enterré sous terre, dans un tunnel souterrain, je fais plus de faute. Ouais, je suis tranquille. Donc c'est de la faute de l'âme, c'est pas de ma faute à moi. Et là, Kadosh Baruch Hu, il est embêté. Il dit, qu'est-ce que je fais? C'est de la faute de qui? C'est de la faute de l'un, c'est de la faute de l'autre, qu'est-ce qu'on fait? Bien Chazal, ils disent à quoi la chose ressemble. La chose ressemble à quelqu'un qui avait un potager, en un mot, et qui voulait absolument le garder, faire en sorte que les gens ne mangent pas ses fruits et ses légumes, etc. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, si je mets un gardien, mais que ce gardien, il voit les beaux fruits, il risque d'en venir à les manger. Donc je ne peux pas mettre quelqu'un qui voit. Alors qu'est-ce que je fais? Il a dit, j'ai une super idée. Je vais mettre un gardien qui est aveugle. Comme ça, lui, il ne verra pas. Il ne verra pas les fruits. Mais lui, je lui mets des jambes. Il dit, je vais mettre quelqu'un d'autre qui voit. Mais lui, il n'a pas de jambes. Comme ça, si celui qui voit et qui n'a pas de jambes, il voit qu'il y a un voleur qui arrive, il va prévenir l'aveugle. Et puis de cette façon-là, tout est résolu. Il dit comme ça, il n'y a aucune chance. L'aveugle, lui, il ne voit pas les fruits, donc il ne mangera pas. Et celui qui voit, de toute façon, il ne peut pas se déplacer jusqu'à là-bas, donc il ne les mangera pas. Il s'est dit, tout est résolu. Qu'ont fait ces deux rigolos? À un moment donné, celui qui voit bien, il a dit à l'aveugle, écoute, il est super fruit là-bas, tu sais, ça vaut le coup. Mais moi, je ne peux pas me déplacer. L'aveugle dit, moi, je ne vois pas. Il dit, mais tu me fais confiance? Oui, je te fais confiance. Allez, viens, monte sur mes épaules. Le clairvoyant a pris l'autre sur ses épaules et ils ont été ensemble. Et voilà. L'aveugle, il a pris l'autre sur ses épaules. Ils ont été ensemble. Et puis celui qui voyait, il accueillait les fruits. Et l'aveugle, c'était lui qui le véhiculait. D'Isra Chavim, c'est exactement la même chose. On a un corps et on a une âme. Et chacun, tout seul, ne pourrait pas fauter. Chacun à lui-même, il ne fauterait pas. Pour fauter, on a besoin des deux. Une âme, ça ne faute pas. Même si une âme, ça a envie de fauter, elle n'a pas le corps pour se déplacer. Et le corps, lui, il peut se déplacer, mais il n'a pas l'âme pour l'animer. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, à ce moment-là, il y a les deux. Que fait Akadosh Baruch Hu? Eh bien, il va faire comme le propriétaire de ce potager. Il va prendre l'aveugle, il va mettre sur ses épaules l'autre, il va dire, vous voyez que c'est vous qui avez mangé tous les fruits? Pareil, Akadosh Baruch Hu, il va prendre l'âme, il va l'investir dans le corps, et il va dire, l'âme et le corps, ensemble, vous fautez. Si vous fautez, vous fautez. Voilà ce que Chachamim nous enseigne. Maintenant, écoutez bien. Vient le Ben Ishraï avec un très beau chidouche. Dans les halachot Shabbat, dans la Gemara de Shabbat, et ça va bientôt être les dapé ayomi de cette Gemara-là, il y a un concept qui est très important. Le concept dit la chose suivante. Imaginez deux personnes qui font ensemble une melacha pendant Shabbat. Il y a deux personnes qui font une melacha. Nous, on a toujours été au courant que quand il y en a un qui fait une melacha, un qui fait un travail interdit pendant Shabbat, il est passible de la peine de mort ou quoi? Il est chayav. Donc qu'est-ce qui se passe si on est deux à faire? Alors, si on est deux à faire, il y a écrit qu'on est patour. Ba'asota, écrit dans la Torah, il faut qu'il y en ait un qui fait la melacha. Si on la fait à deux, on est patour. Maintenant, la question qui se pose, c'est, ok, s'il y a une mélacha que moi je pouvais faire tout seul, et que toi tu pouvais faire tout seul, et qu'on l'a faite ensemble, donc en quelque sorte, moi j'ai fait la moitié, toi t'as fait la moitié, je comprends qu'on soit pas tout. Mais qu'est-ce qui se passe si moi tout seul j'aurais pas pu la faire? Quelque chose de super lourd. On le porte du domaine privé au domaine public. Tout seul, j'aurais jamais réussi à porter ça. Toi tout seul, t'aurais jamais réussi à porter ça. C'est à nous deux qu'on a réussi à porter ça. Et tous les deux, on a porté. Et tous les deux, on a sorti du domaine privé au domaine public, on a fait une mélacha. Est-ce qu'on est chayav ou est-ce qu'on est patour? Là, il y a une machloket. Tana Kama, il dit, bah, vous êtes chayav. Puisque toi tout seul, tu pouvais rien faire. Et que l'autre, il pouvait rien faire tout seul. Donc, chacun était nécessaire ici. Donc, chacun a fait comme une mélacha entière. Donc, on est chayav. Viens Rabbi Shimon bar Yochai, et il nous dit, c'est pas vrai. Même dans ce cas-là, il le prouve de Psukim, même dans ce cas-là, on n'est pas tour, on est dispensé. Pourquoi on est dispensé même dans ce cas-là? Il y a des Psukim qui le prouvent. S'il y en a un seul qui fait une mélacha, c'est dans ce cas-là que la Torah prévoit qu'il soit chayav. Si on est deux, il n'y a pas. Même si chacun ne pouvait pas faire la mélacha tout seul. Viens le Ben Yishraï et il dit, écoutez la beauté de l'idée. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, il est conscient d'une chose. Selon ce qu'on vient de dire, quand un homme faute, il y a et son âme et son corps qui fautent. La preuve, l'âme toute seule, quand elle est séparée du corps, elle faute plus. Le corps, quand il est séparé de l'âme, il faute plus. Donc qui est-ce qui faute? C'est les deux. Quand il y en a deux qui font ensemble quelque chose d'interdit, on n'est pas tour. On n'est pas chayav, on est dispensé, on n'est pas tout. Bon, tu vas me dire, ok, mais l'âme, elle ne pouvait pas faire sans le corps, il ne pouvait pas faire sans l'âme. Donc ça s'appelle Zeno Yachol, Zeno Yachol, on a besoin de l'un et de l'autre. Oui, mais Rabbi Shimon Bar Yochai, il pense que même quand l'un ne pouvait pas faire l'interdit sans l'autre, et que l'autre ne pouvait pas faire l'interdit sans l'un, on considère malgré tout qu'on est chayav. C'est la raison pour laquelle viennent Chachamim et disent que dans ce cas-là, que se passe-t-il? Et bien dans ce cas-là, d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, on est dispensé. C'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai dit, moi je peux être poter et kol haolam. Moi-même j'ai la capacité d'être poter tout le monde. Puisque moi j'arrive avec mon argument très très fort, qui est que Zeno Yachol, Vezeno Yachol, on n'est pas tour, on est deux à avoir fait, on n'est pas tour. Ça c'est une explication très jolie que le Rav a donnée. Maintenant il faut comprendre quelque chose d'un peu plus profond. Que se passe-t-il avec Rabbi Shimon? Quand on nous parle de Rabbi Shimon, on dit Torato Magen Lanu, c'est sa Torah qui est notre refuge, c'est elle qui nous protège. Et on raconte dans le cours que j'ai donné vendredi, j'ai ramené des enseignements dans lesquels on voit qu'une fois il y avait une épidémie, et Rabbi Shimon Bar Yochai, il a réussi à arrêter l'épidémie. Et tellement, tellement de choses grandioses de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et quand on parle du Zohar HaKadosh, tous les Chachamim, regardez avec quelle attention ils parlent du Zohar HaKadosh. C'est la profondeur par excellence. Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il y a eu de particulier avec ce Rabbi Shimon Bar Yochai? On vient de Chachamim et nous disent, c'était quoi le secret de Rabbi Shimon Bar Yochai? Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est celui dont on dit Torato Umanuto. Sa Torah, c'était sa vie. La vie de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était la Torah. Il y a des gens pour lesquels ils sont prêts à passer du temps pour la Torah. Non, Rabbi Shimon Bar Yochai, la Torah, c'était sa vie. Il n'y avait que ça dans sa vie. Il y avait tellement que ça dans sa vie qu'il a écrit qu'il priait pas Rabbi Shimon Bar Yochai. Il n'était pas tour de tefila. Pourquoi? Torato Umanuto. Sa Torah, c'était son métier, c'était son travail, c'était sa vie. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un homme qui a étudié avec énormément d'assiduité. Combien de temps ça fait que nous sommes en confinement? Quelques mois, maximum 2 mois. On n'en peut plus. On n'arrive pas à étudier. On a du mal à se comporter. Difficile. Rabbi Shimon Bar Yochai en confinement total, sans sa femme, sans avoir de nouvelles, sans rien, que avec son fils pendant 13 ans. 13 ans dans une grotte. Et regardez ce qu'il est devenu, Rabbi Shimon Bar Yochai. Dans ces moments-là, il a étudié avec énormément, énormément de sérieux. Dans sa vie, il n'y avait que la Torah à ce moment-là. Fallait bien qu'il mange. Akadosh Baruch Hu a fait un miracle. Et le miracle qu'il a fait, c'est qu'il y a eu un caroubier qui a poussé. Un caroubier, Chachamim, ils nous font remarquer que le caroub d'abord, c'est pas normal qu'en plein milieu, il y ait un caroub qui commence comme ça à jaillir. Une fontaine aussi. Et en dehors de ça, le Maharsha, il nous fait remarquer qu'il y a un double miracle. Parce que le caroub, ça prend 70 ans pour qu'on puisse profiter de son fruit, pour qu'il commence à donner des fruits. Et là, d'un coup, chou, le caroub, chou, les fruits. Comment ça se fait? Alors on dit, ben, c'est le miracle. Alors viennent Chachamim et disent, mais si déjà il y a un miracle, Alors, donne des fruits un peu meilleurs que le karoub. Il y a écrit dans Chazal que karoub, c'est un aliment d'animal. Le karoub, c'est pas tellement bon. Je sais pas, donne un fruit plus beau, meilleur, avec de meilleures choses. Fais un autre miracle. Dit Rachamim, non. Rabbi Shimon Bar Yochai, dans plein plein d'enseignements qui sont dispersés dans toute la Gemara, on voit que son opinion, c'était de dire que si tu veux grandir en Torah, il faut t'écarter de la matérialité. Écarte-toi de la matérialité. Et d'ailleurs, vous remarquez que les hommes droits n'ont pas dévié. D'accord? Ça veut dire, faut pas avoir trop de confort. Si tu veux réussir dans ta vie, il faut absolument que quoi? Que dans ta vie, tu t'écartes de la matérialité. Comme ça, c'était l'opinion de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est la raison pour laquelle, eh ben, on lui a donné le minimum du minimum du minimum. C'est comme ça qu'il a pu avancer, qu'il a pu étudier et qu'il a pu réussir. La grande question qui va se poser, et je me permets de vous la poser, c'est de dire, mais attends, Rabbi Shimon Bar Yochai, quand même, il était dans sa grotte, sans arrêt dans sa grotte. Qui est-ce qu'il a connu? Qui est-ce qui venait lui demander des bénédictions? Qui est-ce qui venait lui demander des conseils? Qui est-ce qu'il appelait pour ses questions de halakha? Wallo, zéro! Rabbi Shimon Bar Yochai, il était dans sa grotte pendant 13 ans, et puis le reste du temps, je ne sais pas combien il a réussi. C'est pas comme Rabbi Akiva, 24 000 élèves et compagnie, toute la journée, enseigner, enseigner, enseigner. Qu'est-ce qu'il a de tellement grand, ce Rabbi Shimon Bar Yochai? Moi, j'aurais dit presque, il était un peu égoïste. Il étudiait la Torah pour lui, et pour lui, et pour lui, et lui et son fils, et voilà. C'était un peu égoïste. Alors, il faut comprendre ici une idée extrêmement, extrêmement, extrêmement importante. Juste, on avait posé une question. On a dit pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'envisage pas la possibilité que le monde ne puisse être exonéré que grâce à l'un. Il dit, si on a 1 000, c'est mon fils et moi. Si on a 100, si on a 2, pourquoi il dit pas si on n'a qu'un? Le Rav Levinstein, il dit au nom d'un Rav, il dit la chose suivante. Il dit parce que ça n'existe pas. Un père, il ne peut pas dire moi sans mon fils. Ça n'existe pas. Le père, il donne tout à son fils. Il se tue pour son fils. Il prie pour son fils. Il est prêt à renoncer même à son argent pour que son fils puisse étudier la Torah, pour l'éducation de son fils. De dire s'il n'y en a qu'un, ou mon fils ou moi, inconcevable pour lui. En tout état de cause, Rabbi Shimon Bar Yochai, il était tout seul, en train d'étudier la Torah dans sa tente, dans sa grotte, avec son fils. Il était Torato Umanuto, c'est-à-dire qu'il n'avait pas une minute pour sortir, pour aller donner des cours, pour aller faire des choses. Comment tu peux dire que c'est lui qui protège le monde tout entier, que c'est grâce à sa Torah? Et regardez un petit peu, cette année, Corona, mais les autres années, regardez combien de dizaines de milliers de personnes se rendent à Méron le jour de la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai pour se réjouir. Comme si on ressentait un petit peu que ce jour-là, c'était un jour qui nous concernait à tous. Comme si on était un petit peu tous ces élèves de Rabbi Akiva, de Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourtant, on n'est pas tous des kabbalistes, hein. Il y a beaucoup de gens qui se prennent pour des kabbalistes, ça, il y en a même trop. Mais entre nous, il y en a très peu qui sont des vrais kabbalistes. Et pourtant, les gens, ils se disent être les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai. Les gens, ils se rendent à Méron, et les gens, ils prient. Et les gens, dès qu'ils ont un petit problème, ils vont à Méron pour prier sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'il y a de tellement particulier chez ce Rabbi Shimon Bar Yochai qui a finalement vécu que pour lui-même, on a l'impression. De là, on voit un très, 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 très grand enseignement. Et on va essayer, Bezrat Hashem, de le diviser en deux parties. La première rapide, la deuxième, on va un peu plus s'étendre. Regardez le poids qu'a un homme dans sa avodat Hashem, même quand il est discret, qu'il n'est pas vu et qu'il n'est pas connu. Nous, on a l'impression que pour pouvoir être grand, il faut donner des grands cours dans lesquels il y a des milliers de personnes, il faut faire des grandes choses, il faut faire des grandes afrachot challah, il faut prier à un endroit où tout le monde me voit, il faut. Mais si je suis tout seul en confinement, dans ma pièce, dans ma chambre, en train de prier, en train d'étudier, en train de machin, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça peut faire? Ça qui va faire venir le Mashiach, ça qui va faire avancer les choses. Regardez ici l'idée. Regardez l'idée comment elle est forte ici. Rabbi Shimon Bar Yochai, dans sa tente, c'est lui qui illumine le monde tout entier. C'est grâce à lui qu'il y a des xérotes qui sont annulées. Ça veut dire quoi? Regardez le pouvoir de chaque juif. Quand il fait ce qu'il fait, en toute discrétion, sans aucune ostentation, sans que personne le voie, regardez le pouvoir qu'il peut avoir. Et si, tout à l'heure, quand j'irai aux toilettes, après je fais un beau Asher Yetzar, personne ne m'a vu. Ça n'a intéressé personne. Je n'ai pas prévenu dans tous les groupes Facebook que j'ai fait un beau Asher Yetzar. Et pourtant, regardez le pouvoir que ça peut avoir. Ça veut dire que dans le monde dans lequel on vit, dans lequel on est dans un monde de façade, de parade. On a envie de se montrer. Et puis plus on est vu, plus on a l'impression qu'on réussit. Et plus on réussit à avoir beaucoup de vues sur YouTube, plus on pense que dans ce monde de mensonges, essayons un tout petit peu de nous rappeler. La chose principale, c'est la relation qu'on a avec Hachem. Hachem et moi. Lorsque moi je prie, je peux sauver le monde tout entier. Lorsque moi je prie, je peux réussir à faire des choses tellement, tellement, tellement grandes, tellement gigantesques, entre Dieu et moi. Et ça, on le sait. Il y a plein de textes qui le disent. Que l'homme, de par sa avodat Hashem, de par son limud Torah en particulier, grâce à ça, il y a des femmes qui peuvent avoir des enfants, alors qu'elles n'en avaient pas. Grâce à ça, il y a des gens qui réussissent à résoudre leurs problèmes de Shlom Bayit. Grâce à ça, il y a beaucoup de bonnes choses. Combien de gens, Baruch Hashem, n'ont pas attrapé le corona grâce à certains qui ont étudié la Torah? Alors évidemment, on ne pourra pas le prouver. Qui est-ce qui peut réussir à le prouver? On ne peut pas le prouver, mais on y croit. Ça, c'est le premier point que je voulais vous dire. Le deuxième point que je voulais vous dire, et qui ressort de cette même question, et c'est un point auquel on réfléchit malheureusement pas toujours suffisamment, j'aimerais vous le dire aujourd'hui, j'en avais déjà parlé une fois il y a longtemps dans un cours, j'aimerais vous le dire maintenant. Il y a écrit dans un passouk, dans Michelet, Alechem Ishim Ekra. Je m'adresserai à vous, c'est quoi Ishim? Ishim, c'est les hommes. À vous, les hommes, je m'adresserai. Maintenant, de qui on parle? D'Israël, Amar Rabbi Brachia, Elou Talmidei Chachamim, Shedomim Lenashim, Veosim Gvura Ke Anashim. Ça fait allusion aux Talmidei Chachamim, qui sont comparables à des femmes, mais qui sont forts comme des hommes. Ishim, c'est un mot qui est un petit peu confus. Quand on veut dire un homme, on peut dire Anashim. C'est quoi Ishim? Ishim, c'est le degré le moins haut de l'homme en tant qu'homme. Dit la Gemara, on fait allusion ici aux Talmidei Chachamim. On a l'impression que c'est des femmes, mais en fait, ils sont forts comme des hommes. Alors, je ne sais pas quel Talmid Chacham vous avez déjà vu. On a l'impression que c'est une femme. Moi, j'espère que vous n'avez pas l'impression que je suis une femme. Je ne fais rien pour en tous les cas. Je ne suis pas maquillé avant le cours. Je pense que j'ai quand même une voix d'homme. C'est quoi que les Talmidei? Bon, vous allez me dire que je ne suis pas Talmid Chacham, vous avez raison. Mais Rav Chaim Kanievski, vous avez l'impression que c'est une femme. Vous regardez Rav Ovadia, c'était pas une femme. Qui était fort, oui, ça, on a vu combien il était fort. Mais pourquoi tu me dis que c'est une femme? Alors, ça veut dire quoi cet enseignement-là? Vient le Ben Ishraï et il dit quelque chose de très, 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 très fort. Il dit que quand on nous parle de Ish ou Isha, je vais dire, ne vous vexez pas, de mâle ou de femelle. Dans la Kabbalah, à quoi on fait allusion? On ne fait pas allusion à homme, il a la barbe, ou femme, femme, elle a pas de barbe. C'est pas ça qu'on fait allusion. Quand on fait allusion à l'homme, on fait allusion au donneur. Le mâle, c'est celui qui donne. La femelle, c'est celle qui reçoit. Même en électricité, quand on parle d'une prise, pas de judo, une prise d'électricité, il y a la prise qui rentre, c'est le mâle, et la prise qui réceptionne, c'est la partie femelle. Et dans la Kabbalah, c'est comme ça. L'homme, c'est le donneur. La femme, c'est la receveuse. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont beaucoup plus donatrices que des hommes, et il y a beaucoup d'hommes qui, etc. Mais on parle ici du concept. Quand on nous parle du Talmid Chacham, vient Rabbi Berachia, et il dit, le Talmid Chacham, on a l'impression que c'est un receveur, mais en fait, c'est un donneur. Ça veut dire quoi? Dit Chachamim, et le Ben Yishraï en l'occurrence, quelque chose de très, 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 très fort. Il dit, regardez, le Talmid Chacham, de quoi il vit? Le Talmid Chacham, il vit généralement, surtout au jour d'aujourd'hui, de quoi? De dons que les gens lui donnent. Il étudie dans un collège et on lui donne. Il donne des cours et on lui donne. Il fait des choses et on lui donne. Pourquoi c'est comme ça? Parce que s'il passait sa journée à travailler, eh ben il ne serait pas Talmid Chacham. Donc pour être Talmid Chacham, il a besoin de recevoir. Donc quoi? Donc quelle impression on pourrait avoir? On pourrait avoir l'impression que c'est un receveur. Donc que c'est une femelle, que c'est une femme. Le Talmid Chacham, c'est une femme, puisqu'il ne fait que recevoir. Dit le Rav Brachia, non. Veosim gvura ke anashim. Ils sont forts comme des hommes. On a l'impression que c'est des receveurs, mais en fait, c'est des donneurs. Et pourquoi c'est des donneurs? Parce que grâce à leur Torah, le monde tout entier réussit. Grâce à leur Torah, le monde tout entier a de la réussite. Grâce à leur Torah, il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants, qui réussissent à avoir des enfants. Il y a des gens qui ont des problèmes, qui arrivent à voir mieux. Ça, c'est grâce à quoi? Grâce au Talmid Chacham. Comme a écrit dans le Passouk, c'est Mar Zevulun Betsetera Veissachar Beoalecha. Vous savez que Zevulun, c'est l'emblème, c'est l'exemple de celui qui va travailler, qui traverse la mer, les océans. C'est qui Issachar? Issachar, c'est celui qui étudie la Torah. Issachar Beoalecha. Issachar dans tes tentes. La tente de la Torah. Maintenant, quand vous regardez un petit peu, le fameux Issachar et Zevulun. Issachar passe sa journée à étudier, Zevulun, lui, fait des affaires et puis il nourrit Issachar. C'est qui le receveur ici? On aurait l'impression que c'est a priori Issachar. Issachar reçoit. Issachar doit recevoir le Sachar, peut-être c'est pour ça qu'il s'appelle Issachar, il doit recevoir son salaire, il doit recevoir, c'est un receveur. En fait, on dit non. C'est Mar Zevulun Betsetecha, toi Zevulun, quand tu vas faire tes affaires, tu peux être serein et rassuré. Tu sais pourquoi? Parce que Issachar Beoalecha. Parce que Issachar, lui, il est en train d'étudier, donc tu réussiras. Ça veut dire que tu vas réussir grâce au fait qu'il y ait Issachar. Et je peux vous dire, j'ai un voisin qui travaillait dans les falafels. Et il avait à Yerushalayim plusieurs magasins de falafel. Un jour, il est venu me voir, il sait que je donne des cours, et il m'a dit, il y a une chose que j'aimerais que tu dises et que tu diffuses au maximum. J'aimerais que tu diffuses ça. Enfin, je te demande un service, j'aimerais que tu diffuses ça. Je lui dis quoi? Il me dit, moi, j'ai fait la yeshiva, et je suis tout à fait conscient de l'importance de l'étude, et de la réussite qu'on a grâce à l'étude. Mais bon, moi, j'ai pas réussi à étudier, donc moi, j'ai commencé à faire des affaires. Il dit, j'ai des magasins de falafel. Il dit, maintenant, moi, j'ai un principe très simple. C'est que pendant les heures où mon magasin est ouvert, je paye des avrechim pour qu'ils étudient la Torah. Je paye des avrechim de telle heure à telle heure, t'étudies pour la réussite de mon essek. Il dit, je vais te dire quelque chose. À chaque fois que j'ai fait ça, ça a marché. Quand quelquefois mon yitzhara, il m'a tourné la tête, et il m'a dit, hey, de toutes façons, tu réussis, laisse tomber, ça va, tu peux ne pas les aider, c'est avrechim. De toutes façons, tu réussis. J'ai arrêté de les aider, d'un coup ça rebaissait complètement, pour une raison ou pour une autre, il n'y avait plus de clients, il y avait beaucoup moins de commandes, il y avait des soucis qui m'arrivaient, il y avait des contrôles, il y avait des machins, il y avait des... Donc je me remettais à aider, et à nouveau ça réussissait. Il me dit, raconte ça en mon nom, bien que c'est des chazals explicites, si quelqu'un commence à voir que ses biens ne réussissent pas, et bien qu'il commence à donner beaucoup plus de tzedaka, c'est des textes explicites dans chazal, dans les gmarot, dans les midrashim, mais c'est quelque chose qu'on voit, c'est-à-dire que la réussite, d'où elle provient? Elle provient de celui qui étudie la Torah. C'est la raison pour laquelle on dit du Talmid Chacham qu'il est semblable a priori à une femelle. On a l'impression, toujours en train de recevoir, toujours il doit demander, toujours il arrive comme ça un peu honteux parce qu'il doit demander pour sa yeshiva, pour son machin. Mais baba, si ta vie elle réussit, si toi t'arrives à faire des affaires, c'est grâce au fait que tu es aidé. Si t'aidais pas, la Torah, bichlal, tu réussirais pas. Ça c'est ce que Chachamim nous enseigne. J'ai entendu du Rav Shlomo Levinstein deux histoires très 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 belles qu'il a racontées à ce sujet, on pourrait en raconter plein, mais deux histoires très très belles. Il y a un homme qui a reçu chez lui pendant des années un jeune étudiant. Cet homme-là, c'est un ami du Rav Shlomo Levinstein. Rav Shlomo Levinstein, c'est un des très grands conférenciers en Israël qui est très agréable à écouter. Il a écrit le livre que vous devez connaître, Matok Haor. Et ce Rav, il raconte... Il dit qu'il y a un bachour yeshiva qui est arrivé à Bnei Brak et dans la yeshiva, il n'y avait pas de place pour l'accueillir. Donc les parents ont demandé, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez l'accueillir quelque part? Qui est-ce qui peut le recevoir, etc. L'ami du Rav Shlomo Levinstein a dit, moi je suis prêt à le recevoir chez moi. Il l'a reçu chez lui, et il s'est occupé de lui, et il s'est préoccupé de lui, et ceci et cela. Il dit, au bout d'un moment, que s'est-il passé? L'enfant, le jeune homme s'est marié, et ceci et cela. Et... ce jeune homme-là, donc il était encore un petit peu en contact après, malgré tout, avec cette famille-là. Ce jeune homme-là, un jour, il discute donc les deux ensemble, il lui dit, écoute, bon, Baruch Hashem, ça va, tout va bien, l'étude, ça va, je réussis dans mon étude, mais sur le plan matériel, walou, tout l'argent que je gagne, au kollel que ma femme gagne, ça va dans la location de la maison. Alors, voilà, c'est mon seul problème, par ça, tout va bien, Baruch Hashem, tout va bien. Or cet homme, il s'est dit, ben, ça serait bien de l'aider. Il dit, mais je ne sais pas comment je peux l'aider. Parce que cet homme-là, lui-même, il n'était pas riche. Cet homme-là, lui-même, il avait des enfants qu'il avait déjà mariés. Il avait déjà un petit peu de dettes. Et puis, il ne savait pas très bien quoi faire. Mais il avait gardé dans sa tête, il y a ce jeune que j'aimerais tellement aider pour qu'il puisse acheter une maison. Il a besoin d'un apport, qu'il puisse acheter une maison. Bref, cet homme-là, il commence à réfléchir qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Et d'un coup, il a eu, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, c'est un héritage qu'il a reçu ou une prime qu'il a reçue. En tous les cas, d'un coup, en dehors de l'argent qu'il gagne habituellement, il a reçu 200 000 shekels. Alors il dit, Khazak, bravo, 200 000 shekels, j'ai bien, qu'est-ce que je fais avec? Il a commencé à réfléchir. Qu'est-ce que je fais avec cet argent-là? Maintenant, cet homme-là, il avait une fille qui n'avait pas d'enfant. Elle s'était mariée, ça fait déjà plusieurs années, elle n'avait pas d'enfant. Elle avait été voir les médecins, et les médecins ont dit, ton mari ne pourra pas avoir d'enfant, on a fait toutes les analyses, etc. Aucune façon qu'il puisse avoir des enfants. Cet homme-là était embêté parce qu'il voulait beaucoup le bien de sa fille, et il voulait beaucoup qu'elle ait des enfants. Il dit, qu'est-ce que je fais? Et d'un coup, il dit, bon, regarde, j'ai 200 000 shekels. La chose la meilleure, on m'a toujours enseigné que c'est la tzedaka. La tzedaka au Talmidei Chachamim. Il dit, j'ai une bonne idée. Je prends cet argent-là et je vais le donner à ce jeune homme. Après, il dit, il fait le calcul, il dit, ouais, mais lui, il va acheter une dira pas trop loin du Beit HaMidrash et ça coûte tant et tant, etc. Mais ça ne sera pas assez, 200 000. Il y a besoin de 300, au moins 330 000. Il se dit, allez, c'est pas grave. Il a été voir un riche, quelqu'un qui habitait dans les parages, qui lui avait deux enfants. Et ces deux enfants, ils devaient se marier. Ils n'avaient pas encore trouvé. Cet homme, il va le voir, il lui dit, écoute, je sais que tu as deux enfants qui veulent se marier. Je sais que tu aimerais beaucoup qu'ils se marient, regarde. Moi, j'ai été prêt à donner 200 000 pour ce Talmid Chacham là qui puisse enfin s'acheter une maison. Toi, je te demande de donner 130 000. Tu veux, tu veux, tu veux pas, tu veux pas. Sache que tu auras beaucoup de réussite dans le mariage de tes enfants parce que aider un Talmid Chacham, il n'y a rien de mieux que ça. Bon, cet homme-là, sans réfléchir, il signe un chèque de 130 000. Notre cher ami va voir le jeune homme, il dit voilà, tiens, 330 000, tu as de quoi avoir un apport, tu peux acheter une maison, etc., etc. Et l'histoire raconte, histoire authentique de l'ami du Rav Shlomo Levinstein, l'histoire raconte que quelques mois après, la femme est tombée enceinte et Baruch HaShem a ensuite accouché. En dehors de ça, l'homme là en question qui avait envie de marier ses enfants qui n'arrivait pas, il a réussi la première année à marier son premier enfant, l'année d'après à marier son deuxième enfant. Tout a marché de façon extraordinaire. Alors c'est vrai, on a l'impression que lui c'est un receveur. Qui reçoit, il reçoit une maison, il reçoit des dons, il reçoit des choses. Mais en fait, c'est tout l'inverse. Autre histoire qu'il a racontée, très très belle aussi. Il dit qu'il y avait un couple qui n'avait pas d'enfant. Ça faisait des années, des années, des années, ça faisait 20 ans qu'ils n'avaient pas d'enfant. Ils se sont dit, on va aller en Israël, peut-être que là-bas, il y aura de la réussite. En Israël, c'est le lieu où se trouve Akadosh Baroukh Hou particulièrement, etc. Peut-être qu'on aura de la réussite. Ce couple s'est rendu en Israël. Un jour, il y a un homme des États-Unis qui devait se rendre en Israël pour quelques jours. Il était en déplacement et dans la rue, à un moment, il voit cet homme-là. Il dit, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, bah écoute, j'ai pas d'enfant, je suis venu ici, peut-être qu'Hachem va m'aider à avoir des enfants. Cet homme-là, il lui dit, mais écoute, Laziz, écoute, accepte que tu n'aies pas d'enfant, comprends que tu n'as pas d'enfant, accepte la situation, ça fait 23 ans que tu n'as pas eu d'enfant, maintenant tu vas avoir un enfant. Accepte la situation, accepte, et puis voilà. Et l'autre, il lui dit, écoute, je ne sais pas, moi non, j'espère avoir des enfants, je continue à prier, je garde espoir, etc. Il dit, mais non, regarde, tu es tellement malheureux, sans arrêt, tu espères avoir des enfants, chaque mikvé, tu espères que tu vas avoir des enfants, après ta femme à nouveau, elle a les règles, laisse tomber. Bref, cet homme-là est retourné aux États-Unis, il a raconté à sa femme. Il a dit à sa femme, écoute, voilà, j'ai rencontré un tel, il m'a dit qu'il espérait encore avoir des enfants. Et je lui dis, mais non, arrête, laisse tomber, accepte ta situation. Or, sa femme, elle lui dit, mais pourquoi tu te mêles toujours de ce qui ne te regarde pas? Il te dit qu'il espère avoir des enfants, dis-lui, Bezrat Hashem. Il dit, mais non, mais si tu l'avais vu, dans quelle affliction il est, dans quelle difficulté, désarroi il est. J'étais obligé de lui dire, arrête, arrête de sans arrêt espérer, arrête, accepte ta situation, et voilà, tourne une page. Alors, sa femme, elle dit, qui te dit? Qui te dit qu'il n'aura pas? Il dit, mais ça fait 20 ans qu'il n'a pas, mais il va avoir. Il dit, et qui te dit? Alors le mari, il dit, c'est quoi? S'il a un enfant, voilà, moi je te promets, s'il a un enfant, je vais être avrech, je vais passer maintenant ma journée à étudier la Torah. La femme, elle dit, ok. Bref, l'histoire raconte qu'au bout d'un an à peu près, quelque chose comme ça, cette femme est tombée enceinte et elle a eu un bébé. Maintenant, cet homme-là qui avait tout envie de faire, sauf d'aller étudier la Torah toute la journée. Il a été voir Ephraim Kanievski. Il a dit à Ephraim, dites-moi Ephraim, voilà, j'ai fait ce vœu, qu'est-ce que je dois faire? Ephraim lui dit, bah, tu dois devenir avrech, étudier la Torah toute la journée. Alors il lui dit, on ne peut pas faire une petite Atarat Nedarim, là, comme ça, une petite, un petit quelque chose. Alors il lui dit, ben non, ça c'est un éder de mitzvah, puisque c'est une mitzvah d'étudier la Torah, grande mitzvah. Donc c'est un vœu qui concerne la mitzvah. Un vœu qui concerne une maison, on n'a pas l'habitude de procéder à une annulation des vœux. Alors cet homme y réfléchit, et puis comme il avait assez le sens des affaires, il dit, est-ce que ça marche si je nomme un envoyé? Vous savez qu'on a un principe shtéar chez la dame Kemoto, l'envoyé de quelqu'un c'est comme lui-même. Est-ce que ça marche si j'envoie un envoyé? Moi je continue à travailler, j'envoie quelqu'un étudier la Torah à ma place. Alors le rav il lui a dit, pourquoi tu ne ferais pas l'inverse? Pourquoi tu ne mettrais pas un envoyé dans tes affaires, et toi tu irais étudier la Torah? Et après le rav Chaim Kamenetsky a dit quelque chose de très intéressant. Il lui a dit, va savoir si Hachem n'a pas donné un enfant à cette femme-là pour que toi tu ailles aller étudier la Torah. Va savoir. Peut-être qu'Hachem, grâce à ton vœu, il a donné un enfant pour que toi tu puisses aller. Et toi, tu dis, je vais trouver un envoyé. Ton envoyé, mais dans tes affaires à toi. Regardez un petit peu ici. La force de la Torah. Pour que quelqu'un puisse étudier, Hachem, il a pris une femme stérile, il lui a donné un enfant. Et grâce à cet engagement de cet homme-là, cette femme-là, elle a eu un enfant. Regardez un petit peu l'impact de la Torah, Kdosha. En tout état de cause, le principe qu'on comprend et qu'on entend, et qu'il faut qu'on se répète sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, c'est que la Torah, c'est elle qui est la donneuse. Le Talmid Chacham, c'est lui qui est le donneur. Et les autres, c'est eux qui sont les receveurs. J'aimerais terminer avec une idée qui va un peu dans le même sens. Après, on retourne sur Rabbi Shimon Bar Yochai. La Gemara, elle demande, elle dit, le Apikoros, il n'a pas le droit au Olam Haba. C'est la Gemara, elle dit. Apikoros, l'hérétique, il n'a pas le droit au Olam Haba. La Gemara, elle demande, c'est quoi un hérétique? Je ne sais pas si on s'interrogeait, c'est quoi un hérétique? Chacun, j'imagine, il donnerait une autre définition. Plusieurs définitions dans la Gemara. L'un des rabbanim, il dit, tu sais c'est quoi un hérétique? C'est quelqu'un qui, quand il parle des Talmidei Chachamim, il se dit, Mayahanu Rabbanan. À quoi ils servent ces rabbanim? À quoi ils servent ces chachamim? Ils étudient que pour eux, que pour leurs élèves, que pour machin. Ils font même pas l'armée, ils font même pas tout type de choses, ils travaillent pas, c'est des parasites, des machins. Tout ce genre de termes qu'on entend tellement que quelquefois on aurait peut-être même l'impression qu'il y a une part de vérité dans ça, alors que c'est le mensonge le plus total qui puisse exister. Et c'est bien la preuve que c'est faux quand on dit que dans tout mensonge il y a une part de vérité. Eh ben, c'est ça un apikoros. Il n'est pas méchant, il a tué personne, il a embêté personne, il a juste dit dans son cœur, dans son for intérieur, il s'est dit, ces Chachamim-là, à quoi ils servent? Raphaël Kanievski est bien gentil dans sa Rechov Rashbam à Bnei Brak, mais à quoi il sert? Le monde, il aurait pu se passer de lui. Quelqu'un qui dit ça, c'est un apikoros. Pourquoi c'est un apikoros? Mais plus que ça, pourquoi il n'y a pas le droit au Olam Haba? Cette question, ce n'est pas moi qui la pose, c'est le Hafetz Chaim. Hafetz Chaim dit, pourquoi il n'a pas le droit au Olam Haba? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il n'y a pas droit au Olam Haba? Vient le Hafetz Chaim et il dit, il explique de façon mathématique et de façon tellement vraie et tellement belle. Il dit comme ça. Nous, notre plus grande aspiration, Bezrat Hashem, c'est d'avoir le droit au Olam Haba. On a envie d'avoir le droit au Olam Haba. Maintenant, dans l'Olam Haba, Bezrat Hashem, par le mérite de nos mitzvot, eh ben on pourra avoir une grande part au Olam Haba. Chaque mitzvah qu'on accomplit, c'est une part de Olam Haba. Chaque mitzvah, chaque mitzvah, chaque mitzvah, chaque fois qu'on aide quelqu'un, chaque sourire qu'on donne à nos amis, chaque téléphone qu'on appelle nos parents pour leur demander comment ils vont, chaque mitzvah, c'est du Olam Haba. Vient le Hafetz Chaim et il dit, bon, ok, donc j'ai compris. Chaque acte positif, Olam Haba. Mais dans ce monde-ci, comment je vis? Dans ce monde-ci, faut bien que j'ai ma parnassa, faut bien que j'ai mes réussites. Et tout ça, d'où ça provient? Faut bien que ça provienne de quelque chose. De quoi ça provient tout ça? Ben tout ça, ça provient de quelque chose. Je ne peux pas manger gratuitement, ça n'existe pas. Donc je mange avec quoi? Pourquoi je mange? Grâce à quoi je mange? Et si tu me dis, ben je mange grâce à mes mitzvot, chaque mitzvah, ça me donne la possibilité de manger un fruit, ou chaque mitzvah, ça me donne la possibilité de manger 100 fruits, ou chaque mitzvah, c'est tu peux l'échanger contre 200 shekels. Ok? Alors dans le Mamba, il risque de plus rien rester. Ça serait trop méchant. Trop, trop, trop méchant. Or, de quoi je vis dans ce monde-ci? Puisque, a priori, je ne vis pas gratuitement. Je dois bien avoir des mérites pour vivre. Vient la Gemara et dit, Kol haolam kulo nizon bishvil chanina beni. Gemara explicite. Le monde tout entier a la parnassa grâce à mon fils Chanina. C'est un grand, 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 grand rave qui vivait dans la pauvreté, qui s'appelait Rabbi Chanina. Tout le monde vit et mange et a la parnassa et a son chèque en fin de mois grâce par le mérite de Rabbi Hanina ben Dosa. Et Rabbi Hanina dailo bekafra rouvim. Et Rabbi Hanina lui-même, il se contente de peu. Rabbi Hanina, il mange quelques petits charouvim, du charouv, là on l'a dit tout à l'heure, c'est pas une très très bonne nourriture. Il mange ça et ça lui suffit amplement. Donc du coup, lui, il a plein de mérites. Tous les mérites qu'il a, Rabbi Hanina ben Dosa, c'est ça qui va aider les gens à pouvoir vivre. Donc si nous, aujourd'hui, on a notre parnassa, et si nous, Bezrat Hashem, dès que le corona sera terminé, on pourra retrouver une bonne parnassa, c'est grâce à qui? C'est grâce à Hanina Beni. C'est grâce à Rabbi Chaim Kanievski. C'est grâce à Tel Tzadik. Il y a peut-être des Rabbi Chaim Kanievski aussi qui ne sont pas connus, qui sont dans leur grotte. Et grâce auxquels, qu'est-ce qui se passe? On est nourri. Donc si on est nourri dans ce monde-ci, c'est pas parce que j'accomplis des mitzvot. Les mitzvot que j'ai accomplis, ça, elles seront pour le Olam Haba. Mais grâce à qui cette équation est possible? Grâce à Hanina Beni. Grâce au Gdolador, qui, de par sa Torah, a une influence colossale, gigantesque et même matérielle sur ce monde-ci. Viens le Rav Etzraïm et il dit, ça c'est vrai, quand moi je suis conscient, c'est qui Hanina Beni? Quand moi je suis conscient que Hanina, c'est un grand Talmid Chacham, et que je suis conscient que je vis grâce à lui, alors effectivement, je vis grâce à lui. Mais imaginez que moi je vienne et que je dise, à quoi il sert ce Hanina là? À quoi il sert? Ah, sa Torah, à quoi il sert? En plus, c'est un clochard, regarde-moi, il mange que des charoub. Il mange que des charoub toute sa vie. C'est un clodo. Imaginez que moi je vive comme ça et que je me dise comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Vous pensez vraiment que moi j'aurai le droit à la nourriture grâce à Rabbi Hanina? Ben non. Si moi je le sous-estime et si moi je le dénigre, alors je ne pourrais pas bénéficier du mérite de Rabbi Hanina, puisque moi je pense qu'il n'a pas de mérite. Donc Hachem il va me dire, ah toi tu penses que Rabbi Hanina c'est un idiot, que c'est un imbécile, que c'est un vaurien, qui sert à rien, qui te dérange, que c'est un parasite? Ok. Alors toi, tu n'auras pas le mérite de Rabbi Hanina. Si tu n'as pas le mérite de Rabbi Hanina, c'est-à-dire que tous tes chèques en fin de mois, toutes tes payes, tous tes salaires, ce ne sera pas grâce à lui. Alors ça sera grâce à toi, à quoi monsieur? Comment tu veux vivre? Quel mérite tu as? Ah, grâce à tes mitzvot. Donc toutes les mitzvot que tu as accomplies, celles qui vont te permettre de bien vivre, et d'aller en vacances, et de te payer une Ferrari, et de ceci, et de cela, ok. T'étonnes pas ensuite que tu n'auras pas le droit à la maba. C'est pas que tu n'auras pas le droit parce qu'on te punit, c'est que tu n'auras pas le droit parce qu'il ne te restera plus rien. Parce que tout ce que tu as voulu kiffer dans ce monde-ci, c'était pas grâce à Rabbi Hanina ou à grâce à Rabbi Chaim Kanievski, c'était grâce à tes mitzvot. Donc grâce à tes mitzvot que tu as accompli, voilà ce qui te reste. Et donc tu n'auras pas le droit à la maba. C'est comme ça que le Rav Etzraïm explique de façon magnifique cet enseignement-là. Ça veut dire que, pour en revenir à notre idée, ce fameux Rabbi Hanina, lui on aurait pu le regarder comme ça avec mépris, quoi, il n'a même pas de voiture, il a même pas de beaux vêtements, il marche avec des vêtements comme ça déchirés, il n'a même pas de nourriture, de quoi manger, il ne peut pas se permettre un bon vin, il n'a pas un beau 4x4 comme ça, comme les gens ils aiment bien frimer, il n'a pas tout ça. Bon alors ça, c'est un petit nul. Non, grâce à lui et sa pauvreté, le monde entier vit. Les riches, ils ont leur nourriture dans ce monde-ci. Les autres pauvres, ils ont la nourriture dans ce monde-ci. Grâce à cet homme-là. Grâce à cet homme-là dont on a l'impression que lui, c'est un pauvre malheureux, lui, il réussit pas tellement dans ce monde-ci, machin. Non seulement il réussit, et non seulement il est heureux du peu de charouvim qu'il mange, mais en plus, c'est grâce à lui que le monde tout entier fonctionne. Mais ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. C'est pas l'impression qu'on a. Nous, l'impression qu'on a, c'est que, heureusement qu'il y a des riches. Que serait le monde des yeshivot sans les riches? C'est vrai que les riches, ils aident beaucoup le monde des yeshivot, et bravo, et c'est leur grand mérite. Mais s'il n'y avait pas de yeshivot, et s'il n'y avait pas de talmidei chachamim, et s'il n'y avait pas de gens qui étudiaient cette fameuse Torah, eh ben, il n'y aurait rien du tout. Les riches, ils n'auraient pas d'argent pour aider, et le monde, il ne pourrait pas se maintenir. Le monde se maintient grâce à la Torah. C'est le Hagmara dans le début de Avodah Zara, à Kadosh Baruch Hu, il a fixé une règle. C'est que le monde pourrait se maintenir grâce à l'étude de la Torah. Et c'est comme ça que le Ben Ishra explique le fait qu'il y ait dans tout type de pays des changements horaires. Quand ici il fait jour, là-bas il fait nuit. Parce que quand il fait nuit, on dort. Donc quand aux États-Unis ils dorment, en Israël on étudie la Torah. Quand en Israël on dort, là-bas ils étudient la Torah. Faut pas qu'il y ait un moment sans Torah. Un moment sans Torah c'est dangereux. Un moment sans Torah c'est terrible. Et vous voyez ce qui se passe quand un Kadosh Baruch Hu, il décide, une fraction de seconde visiblement, de retirer un petit peu sa Hashgacha. Le monde tout entier peut être paralysé. Le monde tout entier peut être en coma, dans le coma. Donc, ce qu'il faut qu'on retienne, et c'est l'idée que Rabbi Shimon Bar Yochai va nous donner. Ce fameux Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était, je répète, dans sa grotte, qui était tout seul avec son fils en train d'étudier la Torah, qui n'a pas eu des grandes décisions à prendre sur le plan politique, qui n'a pas eu de grandes choses à dire et de grandes choses à faire, qui n'attirait pas les foules de par sa parole. Ce fameux Rabbi Shimon Bar Yochai, regardez l'impact fou qu'il a eu. Parce que c'est ça la force de la Torah. C'est sûr que si on a la possibilité de diffuser la Torah, il faut la diffuser, il faut donner des cours à des gens, il faut qu'il y ait des gens qui nous écoutent, etc. Mais la force de la Torah, elle est telle que même si tu es toi seul avec ta Torah et que tu étudies, ça vaut le coup. Alors bien sûr, vous allez voir des gens qui vont dire « il me fait de la peine lui, c'est un avraire qui a 70 ans, je comprends pas, alors t'es quoi, alors t'es rien ?» Vous promets, j'entends des gens dire ça, parfois je deviens fou furieux. Un avraire qui a 70 ans, il a la barbe blanche, il est comme ça en train de se balancer toute la journée sur sa Gemara. Il y a des gens, souvent des Français d'ailleurs, mais ça peut être aussi des Américains ou des Juifs, qui vont dire « mais lui, il a bousillé sa vie, il a gâché sa vie. » Bon ok, t'étudies à 30 ans, 40 ans pour devenir rave, après tu fais des conférences, tu donnes des cours, tu fais des machins, ok. Mais quoi, jusqu'à 70 ans, il est comme ça en train d'étudier la Torah. Pour moi, c'est la plus belle réussite. Rabbi Shimon Bar Yochai, vous pensez que c'est pas ce qu'il faisait ? Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est ce qu'il faisait. Moi, personnellement, pour vous donner mon exemple, c'est ce que j'essaye de faire et ce que j'aspire de faire. Parce qu'il y a beaucoup de cours que je refuse de donner sous prétexte que c'est les heures dans lesquelles je suis au collège et que je veux continuer à étudier la Torah. Et heureusement que j'ai une femme tzadika qui, quelquefois, me dit « Mais attends, si tu acceptes ça, finalement, tu vas devenir un homme d'affaires. Tu vas pas rester un Talmid Chacham. » Donc, c'est ça, la plus grande aspiration de quelqu'un. Ça doit être de continuer à étudier la Torah. David HaMelech, il disait « Achat Sha'alti Me'et Hashem » Il y a une chose que j'ai demandé. « Shifti Bevet Hashem » D'être dans la maison d'Akadosh Baruch Hu. Et bien ça, c'est ce que Rabbi Shimon Bar Yochai nous a enseigné. « Je prie Bezrat Hashem » Pour l'ensemble du clan d'Israël, on se trouve dans une période très, 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 très difficile, comme on le sait tous. Une période dans laquelle on ne peut même plus vivre avec les autres à l'extérieur. On est renfermé sur nous-mêmes, renfermé avec nos familles, renfermé. On ne peut même plus prier Betzibour. Tous les secrets qu'on a comme ça pour réussir un petit peu à faire avancer les choses, on ne peut pas en profiter pour l'instant. Et la seule chose qu'on a, c'est Akadosh Baruch Hu. Et c'est la possibilité de demander à Akadosh Baruch Hu qui nous protège et qui nous sauve. Et qui nous sauve de cette situation-là. Méron peut être fermé. Je vous assure, pour moi, Méron qui est fermé à Lag BaOmer, c'est quelque chose d'inconcevable. Moi, ça fait peut-être 15 ans que chaque Lag BaOmer, je vais à Méron. Quand il y a eu la guerre dans le Nord, Méron était quand même ouvert. Pourtant, c'est dangereux, tellement de gens dans tout petit endroit. Eh bien, la guerre, elle s'est arrêtée un petit peu avant. Il y a toujours Méron a été ouvert. C'est un endroit dans lequel il y a tellement de gens. Il y aurait tellement de possibilités qu'il y ait tout type d'attentats. Baruch HaShem, tout se passe toujours bien. Le nombre de personnes qu'il y a là-bas, c'est un miracle chaque année qu'il n'y ait pas des dizaines et des dizaines de morts. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, il est là-bas et il s'occupe de nous et il prie à Kadosh Baruch Hu en notre faveur. De voir cette année cet endroit-là fermé, c'est-à-dire quoi fermé? Il y a trois allumages de Medourot avec 40 personnes maximum qui peuvent être là-bas. C'est pas Lag BaOmer ça. Et bien c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé. Yehi Ratzon Bezrat Hashem. De là où on est, même si Méron est fermé, nous, de là où on est, on peut prier à Kadosh Baruch Hu. Rappelez-vous de cette image-là. Rabbi Shimon Bar Yochai, dans sa grotte, il a de l'influence sur le monde entier. Nous, dans notre grotte, on a de l'influence sur le monde entier. C'est pas parce que tu iras à Méron que tu auras plus d'influence que si tu restes chez toi à la maison. Donc, Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite de se renforcer en Torah. Tout un chacun qui prenne sur lui et étudie encore un petit peu plus, encore un peu plus fort, encore avec un peu plus de conviction, encore avec un peu plus de discrétion. Et Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite, grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai, de beaucoup, beaucoup réussir. Je vous bénis, Bezrat Hashem, tous, toutes, que vous ayez beaucoup, beaucoup de réussite. Le cours d'aujourd'hui et la journée d'études sur le site et pour la réussite de la famille Journeau qui a acheté cette journée. Bezrat Hashem, que cette année, ils aient le droit au mérite de marier leur fille, Bezrat Hashem, et Leilou Nishmat, son mari, et Mme Journeau, Leilou Nishmat, son père, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Et voilà, Besorot Tovot, merci beaucoup, beaucoup de votre attention. Merci d'avoir été là, je sais que ce soir il y avait beaucoup de sollicitations extérieures. Merci de m'avoir fait l'honneur d'être là et je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de réussite.